Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Les vols entre Prague et le Caire continuent d'être perturbés. Zdeněk Štybar a été sacré double champion du monde de cyclocross. Tomáš Werner a décroché la médaille de bronze au championnat d'Europe de patinage artistique. En raison de la révolte populaire et du couvre-feu en Égypte, les vols à destination et en provenance de ce pays sont perturbés. La compagnie aérienne tchèque ČSA a reporté son vol régulier à destination du Caire de dimanche soir à lundi matin. L'avion repartira du Caire lundi avec plusieurs heures de retard. Pendant la période d'hiver, ČSA assure 3 vols réguliers entre Prague et la capitale égyptienne. Selon la porte-parole de la compagnie Hanna Hayskova, les vols charter vers les destinations touristiques en Égypte opérées par Holidays Czech Airlines sont maintenus. D'après le vice-président et porte-parole de l'association des agences de voyage tchèque Tomio Okamura, les autres tours opérateurs ne prévoient non plus aucune annulation des vols charter la semaine prochaine. Plusieurs dizaines de clients des agences de voyage ont déjà décommandé leur séjour en Égypte. Plus d'un millier de touristes tchèques se trouvent actuellement dans ce pays, dans les stations au bord de la mer Rouge où la station est relativement calme. Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a tout de même recommandé aux ressortissants tchèques de différer leur voyage vers l'Égypte et appelé les touristes sur place à éviter les villes les plus touchées par le mouvement de contestation. Les diplomates tchèques et leurs familles restent pour l'instant au Caire. Tomáš Werner, sacré champion d'Europe en 2008 et vice-champion en 2007, a décroché la médaille de bronze samedi soir au championnat d'Europe de patinage artistique de Berne en Suisse. Il avait terminé à la 5e place jeudi à l'issue du programme court et a fini 2e du programme libre avec une chorégraphie sur la musique de Michael Jackson. Werner a terminé à 41 centièmes de seconde du français Brian Joubert, médaillé d'argent. Une grande déception pour Michal Březina, 20 ans, classé 2e à l'issue du programme court. Il a chuté 2 fois au cours du programme libre et il a fini à la 8e place. Zdeněk Štybar, 25 ans, a décroché son 2e titre de champion du monde de cyclocross dimanche à Sankt Wendel en Allemagne. Il a devancé de 18 secondes le Belge Sven Nys. Et chez les femmes, la Tchèque Kateřina Nacheva a gagné la médaille de bronze à l'issue d'une course remportée par la Néerlandaise Marianne Vos. Côté météo, le début de la semaine sera placé sous le signe d'un temps froid et ensoleillé. La nuit, les températures tomberont à moins 8 degrés en moyenne. Lundi, elles seront comprises entre moins 4 et 0 degrés. Nous fêterons lundi les Mareka en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Culture sans frontières. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture sans frontières. On retrouve aujourd'hui Jeanne Pommeau, une Française installée à Prague depuis 8 ans, qui travaille aux archives nationales du film à Prague dans la section restauration. Avec elle, nous avons évoqué le travail de restauration, la problématique numérique analogique et les séminaires d'histoire du cinéma donnés par le cinéma Bondrepo à Prague. Mais avant tout cela, Jeanne est revenue sur les différents sites des archives nationales du film. On l'écoute.
Oui, alors c'est disséminé dans Prague et aux alentours de Prague, parce que donc à Prague, nous avons donc dans la rue Bartholomiejska le cinéma Bondrepo. Et les bâtiments où il y a se trouve la bibliothèque, le département de économique et l'édition et la théorie du film. Voilà, donc ça c'est un bâtiment. Ici on est à Malechitska, donc à Žižkov. C'est là où se trouve le directeur, une partie du département technique et le département des historiens où je me trouve. Donc en fait, ici, on reçoit les films qui vont être envoyés, par exemple, dans les cinémas. Ils sont contrôlés au département technique. Les historiens peuvent consulter les films pour pouvoir gérer le catalogue des films. C'est un autre bâtiment. Ensuite, en dehors de Prague, nous avons 2 dépôts. Un dépôt avec des films nitrates et un dépôt où se trouvent les films qui sont dits de sécurité, c'est-à-dire les films en polyester et en, et en acétate. Il y a deux dépôts selon les films qui sont inflammables et les films non inflammables.
Alors évidemment, archive, ça veut dire dépôt, ça veut dire restauration, ça veut dire aussi, je pense, analyse. Enfin voilà, puisque vous dites qu'il y a des historiens donc qui cataloguent ou qui écrivent des résumés comme vous. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en gros, c'est un peu l'équivalent de la Cinémathèque française? Est-ce que vous pourriez un peu juste délimiter un peu toutes les tâches, quelle est un peu la vocation justement des Archives nationales du film en République tchèque?
Alors les Archives du film en République tchèque ont une vocation qui est plus proche, par exemple, des Archives du film de Bois d'Arcy. D'une part. D'autre part, nous avons aussi un cinéma, donc nous sommes aussi une cinémathèque. Mais contrairement à la Cinémathèque française, qui est quand même une association au départ, nous sommes une institution d'État. Nous nous occupons donc en priorité du cinéma national tchèque. C'est vrai pour la préservation et pour le catalogue. Ça ne nous empêche pas d'avoir une collection importante de films étrangers. De manière générale, on ne peut pas donc comparer l'institution même des archives du film avec ni la Cinémathèque française, qui a vraiment une vocation prédominante de programmation. Et on est vraiment plus proche, j'allais dire, des archives du film de Bois d'Arcy, tout en ayant une Cinémathèque aussi. Donc en fait, on combine.
Alors, vous êtes française, est-ce que justement votre travail ici aux Archives nationales du film, est-ce que vous occupez notamment d'un fonds français ou est-ce que votre éventail d'activités est beaucoup plus large?
Alors, au départ, mon travail ici, c'est d'abord la restauration du film. C'est ma formation, c'est pour ça que je suis là. Et évidemment, je participe, comme les autres historiens, au catalogue, à la base de données des films de la collection. C'est important évidemment parce qu'un film qui n'est pas classé n'est pas un film utilisable, n'est pas un film archivé. Donc je m'occupe de la collection du cinéma documentaire français et du cinéma japonais ainsi que du cinéma africain.
Vous dites qu'en effet votre formation première c'est la restauration. Entre le moment où vous avez fait vos études et aujourd'hui, quelle est un peu l'évolution de votre métier? Je suppose que c'est quelque chose peut-être qui va assez vite avec l'évolution des techniques. Est-ce que vous avez vu des changements radicaux durant, disons, en gros, ces 10 dernières années?
Alors, disons que pour la préservation du film, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la numérisation des films n'est pas une solution de préservation. Tout simplement parce que un disque dur, ça va durer 5 ans, 10 ans, alors qu'un film... Un film 35 mm en polyester va durer environ 200 ans. 100 ans, mais 200 ans, on peut prévoir, on peut espérer.
C'est énorme 200 ans.
Ça fait une grosse différence avec le disque dur.
Qui peut cracher aussi d'ailleurs.
Voilà, qui peut très bien ne pas durer 10 ans. Et évidemment, pour une question de coût totalement différente, puisque transférer les informations... tous les 10 ans sur un nouveau matériel, parce qu'évidemment, ce qui est notre disque dur actuel, dans 10 ans sera autre chose, c'est évidemment un coût énorme. En ce qui concerne la restauration, la numérisation, on ne fait pas encore de restauration numérique. C'est dommage d'un certain point de vue, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en numérique. Ça, c'est dommage, mais... C'est-à-dire que, par exemple, il y a des... Alors, c'est un peu difficile à expliquer à la radio, parce qu'il faudrait que je vous montre sur des images, évidemment. Mais il y a des traces que l'on ne peut pas, effacer, les traces du temps qu'on ne peut pas effacer de manière analogique. Par exemple, des rayures. Par exemple, des crashs au niveau du son. On ne peut pas les effacer analogiquement. Donc, de ce point de vue-là, c'est dommage. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire en analogique, que l'on ne peut pas faire en numérique. Donc, le numérique n'enlève pas la part analogique du travail de restauration, de toute façon. C'est-à-dire que pour qu'un film soit scanné, il faut de toute façon que le matériel soit restauré pour qu'il puisse passer dans la machine. Il faut qu'un nettoyage soit fait au préalable, etc. Donc il y a tout un travail de restauration mécanique. Donc moi je suis pas technique, hein, mais il y a toute une phase de restauration mécanique qui ne peut pas se faire de toute façon par le numérique.
Alors justement, récemment, c'était en septembre 2010, à l'occasion de la Saint-Venceslas, il y a un film qui est ressorti, un film de 1929 qui s'appelle Saint-Venceslas, qui est donc consacré au saint patron des Tchèques. C'est un vieux film, un film muet, qui a été entouré en plus d'une certaine polémique à l'époque, etc. Il a été projeté au public pragois, tchèque, dans la salle du Rudolfinum à l'occasion de la fête nationale. Alors ça, c'était un film qui a été restauré par vos soins ici aux Archives nationales.
C'est effectivement ma collègue Blagena Urgochikova et ma collègue Ingrid Tietzkova qui ont restauré ce film. C'est un des premiers films qui a été restauré. Je pense que encore avant qu'elle le restaure, je crois qu'il a été d'abord restauré par son réalisateur qui travaillait ici aux archives et qui donc a participé à la restauration du film. Ça peut aussi poser des problèmes quand le réalisateur se mêle de la restauration du film parce qu'évidemment, on a toujours envie d'améliorer le travail que l'on a fait avant et difficile après de savoir...
Quelle est la patte du réalisateur ou du restaurateur?
Tout à fait. Difficile de savoir si le réalisateur a réalisé son film en 1929 ou en 1970.
Combien de temps dure la restauration d'un film? C'est difficile à évaluer?
C'est extrêmement long parce que ça demande de regarder toutes ces copies, tous les négatifs que l'on peut avoir. C'est de manière très précise, chaque plan... Il faut, ça demande une certaine organisation évidemment, mais ça demande surtout donc de beaucoup de temps pour regarder, noter ces films, ensuite analyser, trouver des traces archéologiques dans le film pour savoir quel est le matériel le plus vieux, le plus ancien, qui est celui qui est le plus proche du film qui a été projeté le jour de la première. C'est le plus difficile. C'est ce qui prend le plus de temps. Une fois qu'on a fait ça, j'appelle ça un travail de secrétariat parce qu'il faut noter, il faut tout noter, chaque plan. Ça prend un temps énorme, un an, deux ans. Parce qu'on, évidemment, on ne fait pas 40 heures par semaine de restauration. Donc, on fait ça deux fois par semaine. Donc, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais en plus de ça, après, donc, il faut analyser tous ces documents, décider de ce qu'on va faire, parce que la plupart du temps, on ne sait pas exactement à 100% comment était le film. Donc, il faut évidemment, à côté de ça, beaucoup étudier les documents d'époque. Alors, ici, aux archives, on a la chance que ça soit assez centralisé, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque avec beaucoup de documents d'époque, la possibilité aussi de regarder sur la bibliothèque numérique par Internet les documents, mais aussi sur place. En voyant les documents d'époque, on peut vérifier qu'effectivement le film était bien comme ceci et non pas comme cela. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on copie tous les documents, on envoie les documents au laboratoire qu'on a besoin de copier et on fait une nouvelle copie. Parce qu'on ne coupe pas dans les matériaux originaux, hein. Parce qu'on a la chance, extrême, justement, au cinéma, de pouvoir restaurer en copiant et non pas en ne touchant pas au matériel original. Contrairement au tableau où là, on est obligé de... On touche à l'œuvre, mais pas au support, en fait.
J'aimerais juste parler de Ponrepo, le cinéma qui se trouve donc dans la rue Bartolomejska, comme vous disiez, au centre de Prague. C'est alors évidemment un lieu extraordinaire pour tous les cinéphiles, hein, puisque tous les jours, toutes les semaines, toute une programmation justement de films qui finalement ne passent jamais dans la plupart des cinémas grand public. Hein. Enfin là, il suffit de regarder le programme du mois de janvier, il y avait le Jeanne d'Arc de Dreyer. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'ils proposent des sortes de séminaires, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner, alors c'est pour les gens qui parlent tchèque, hein, évidemment, à des séances en fait de cinéma, c'est tous les mardis après-midi, c'est une espèce de cycle en fait, donc projection de cinéma plus commentaires d'historiens qui accompagnent après la projection le film. C'est vraiment tout un travail en gros d'instruction de transmission justement de connaissances.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ça fait 3-4 ans que l'on fait ça, je pense, si je me souviens bien. Et c'est donc le cours d'histoire du cinéma. C'est toute l'année scolaire, en fait. Au départ, c'était prévu en part... Au départ, c'était... Pardon. Au départ, c'était prévu pour les lycéens. Et puis, nous avons décidé d'ouvrir les portes à qui avait envie de venir. Donc, le principe est donc de montrer des films importants de l'histoire du cinéma avec un commentaire de l'historien qui s'occupe de cette collection-là, justement dans notre département. Donc, c'est tous les mardis après-midi. Et c'est vrai que, évidemment, c'est en tchèque. Voilà, donc le public francophone ne pourra pas y participer. Mais je pense que c'est une chose importante des archives vers le public. C'est pour ça qu'on est à la fois cinémathèque et archives. Mais c'est vrai que ces films-là, c'est important pour nous de les montrer à Ponrepo parce que, pour certains d'entre eux, nous n'avons qu'une seule copie. Nous ne pouvons pas les prêter à des festivals. Nous ne pouvons pas, parce que pour des raisons de préservation, nous ne pouvons pas les prêter. Donc, nous devons les montrer. Et ça, c'est l'esprit de Ponrepo, c'est-à-dire à Ponrepo, c'est le seul endroit en République tchèque où les films qui sont préservés aux archives mais qui n'ont qu'une seule copie peuvent être montrés. On ne peut pas prêter ces films-là. Les autres films, quand on a deux, trois copies, on peut les prêter. Mais quand on n'a qu'une seule copie, on ne peut que les montrer à Ponrepo. Donc on doit les montrer à Ponrepo. C'est très important. Un film qui est archivé, qui est dans un dépôt à Hradišťko, ça ne sert à rien. Parce que justement, c'est une œuvre qui a besoin d'être projetée. Ça ne peut pas être une bobine de film morte sur une étagère. Il faut que ça soit montré. Ponrepo, c'est essentiel pour les archives.
C'était donc Jeanne Pommeau, restauratrice aux archives nationales du film à Prague. Cette émission culturelle est la dernière émission culturelle de Radio Prague sur ondes courtes. À partir de la semaine prochaine, retrouvez toutes nos émissions, toutes nos rubriques et notre programme quotidien sur notre site internet. Vous le savez, c'est au www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité à tous. À bientôt sur le web. Ahoy.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Aujourd'hui encore, nous avons choisi quelques extraits tirés de la série d'articles publiés dans le quotidien Lidové noviny et qui ont été consacrés à l'émigration tchécoslovaque, à ses différentes vagues, à ses différents aspects et facettes. Une façon de payer, ne serait-ce que modestement, la dette à l'égard de ceux qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont été contraints de quitter le pays et dont on a assez peu parlé dans les médias nationaux. Le chapitre « Exil et émigration » implique également les fuites à l'étranger qui ont mal tourné. Peut-on lire dans l'une des précédentes éditions du quotidien Lidové noviny qui rappelle que les rêves des nombreux Tchèques et Slovaques qui voulaient rejoindre le monde libre ont été violemment brisés sur le sol même de leur patrie d'origine.
S'appuyant sur les statistiques de l'Office de la documentation et de recherche sur les crimes du communisme, l'auteur de l'article écrit que dans les années 1948-1989, plus de 300 personnes ont trouvé la mort lors de leur tentative d'évasion vers l'Autriche ou l'Allemagne, finissant leur vie fusillée, électrocutée ou noyée. Des centaines d'autres personnes ont été arrêtées et condamnées à de lourdes peines.
La fuite des Tchèques et des Slovaques a été particulièrement dramatique à la fin des années 40 et au début des années 50. Le journal en décrit plusieurs exemples, dont le cas de l'ancien pilote de la RAF, František Pežina, qui a réussi à fuir la Tchécoslovaquie communiste avec son épouse le 11 avril 1949, en empruntant un petit avion sportif destiné à des vols à courte distance à l'intérieur du pays et qui lui a permis de franchir la frontière et d'atterrir au bout de quelques heures de vol en Allemagne. Le quotidien évoque aussi plusieurs cas d'avions enlevés. Plus loin, il ajoute.
Techniquement parlant, les fuites après l'occupation soviétique du pays en 1968 ont été plus faciles que celles dans les années 1950. Beaucoup de gens ont pu émigrer, par exemple, via l'ex-Yougoslavie, mais toujours, même dans les années 1970 et 1980, ils étaient obligés de vivre l'expérience difficile des camps de réfugiés et l'attente de l'asile politique.
Le retour des exilés dans leur pays d'origine est un autre thème important, traité dans les articles qui ont paru pendant la semaine écoulée dans le quotidien Lidové noviny et qui ont été consacrés au phénomène de l'émigration tchécoslovaque.
Il est extrêmement difficile d'identifier le nombre d'exilés tchécoslovaques ayant fui le régime communiste détesté et qui sont retournés au pays après la chute de ce régime en 1989, car les statistiques exactes font défaut. Peut-on lire en introduction de l'un des articles signés du journaliste Adam Droda. Une chose est pourtant certaine. La majorité de ceux qui sont partis ont préféré rester dans leur pays d'accueil, devenu leur patrie d'adoption, pour des raisons économiques, politiques, familiales ou autres. Il explique.
Une grande partie des gens qui ont émigré après février 1948 étaient trop vieux ou bien étaient déjà morts. Des dizaines de milliers d'anciens citoyens tchécoslovaques se sont établis à l'étranger et ont construit de nouvelles existences. Les motifs de ceux qui ont préféré ne pas revenir dans leur ancienne patrie sont très variés.
L'hostilité manifestée par la population et les autorités de leur pays d'origine à leur égard a probablement aussi découragé une partie d'entre eux à revenir. Les résultats d'une enquête effectuée au début des années 1990 ont bel et bien montré que les émigrés avaient une mauvaise réputation aux yeux du grand public. En effet, les Tchèques, ou du moins une grande partie d'entre eux, prenaient leurs compatriotes émigrés pour des gens qui s'étaient enrichis à l'étranger, n'ayant donc aucun intérêt sincère d'aider la République.
Vous n'avez pas vécu ici, donc vous ne comprenez pas notre situation. Voilà un autre stéréotype très répandu vis-à-vis des émigrés. L'enquête mentionnée a également montré que peu de Tchèques semblaient prêts à reconnaître aux émigrés revenus le droit de vote, le droit de récupérer leurs biens dans le cadre de restitution ou encore le droit de toucher une retraite dans leur ancienne patrie.
Un mélange de jalousie, de méfiance, d'ignorance, d'influence de la propagande communiste. Autant de caractéristiques qui, selon le journal, saisissent le mieux la position de la population tchèque à l'égard des immigrés. Un constat émerge. Le fossé entre l'exil et la patrie était bien plus profond dans le milieu tchèque que dans les autres pays de l'ex-bloc soviétique, notamment en Hongrie ou en Pologne.
Lidové noviny cite l'écrivain Lubomír Martínek qui est parti en 1979 en France et qui dit
« Après 1989, les Tchèques n'ont pas su exploiter, dans le bon sens du mot, leurs compatriotes. Des gens de qualité revenus d'exil, techniciens, juristes, professeurs, étaient prêts à offrir leur aide, à enseigner, former, introduire des technologies. Les universités auraient très bien pu se débarrasser des gens incapables, de carriéristes issus de l'ère communiste en les remplaçant par des spécialistes mondialement reconnus. Elles ne l'ont pas fait. Les gens qui sont revenus après 1989 dans le pays ont souvent reçu une douche froide.
Pourtant, des milliers de Tchèques sont rentrés chez eux après la chute du régime communiste. Les motifs de ces retours sont évidents. La nostalgie du pays, les liens familiaux et amicaux. Il y a eu des retours heureux, mais il y a aussi eu ceux qui ont été difficiles et amers. Le journal Lidové noviny cite la psychologue Olga Melinova selon laquelle le retour dans leur pays d'origine peut être, pour les exilés, aussi difficile que le départ.
Pour beaucoup de gens, la réémigration a été le synonyme d'une détérioration de leur niveau de vie, de changement de leur mode de vie. Ils avaient à construire une nouvelle existence professionnelle, rétablir les liens familiaux et amicaux interrompus, créer de nouvelles relations. Le processus traumatisant qu'ils avaient à vivre au moment de leur départ s'est répété en bien des points. Passer d'une culture vers une autre, c'est la tâche d'une vie.
Le journal conclut son dernier chapitre qui est consacré à l'émigration tchécoslovaque depuis 1948 en 1989 en citant Ivan Medek, journaliste dissident et ancien directeur du secrétariat de l'ex-président Václav Havel, qui s'est éteint en janvier 2010. Ivan Medek a passé de longues années en exil en Autriche. Revenir à Prague était pour lui, d'après ses propres mots, une chose on ne peut plus naturelle. À la question qui lui a été souvent posée de savoir pourquoi il est revenu et quel regard il portait sur la situation peu réjouissante dans son pays natal au lendemain de la chute du régime communiste, Ivan Medek a répondu.
Je crois, comme je l'ai cru durant les années de mon émigration, que la situation peu réjouissante ne pourra pas durer pour toujours. Je pense qu'il existe toujours des moyens de se battre. La perte de l'espoir, c'est la faim, c'est la mort. L'espoir est une condition de la vie.
Parmi les émigrés qui sont revenus immédiatement après la chute du régime communiste, il y avait aussi le chanteur et parolier Karel Krill. Écoutons à la fin de cette émission l'extrait d'un de ses plus beaux morceaux.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji.
L'émission en français de Radio Prague est ainsi terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir. Naschledano, à demain.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.